This is Infinite TV from Infinite Universes. Look.
J'ai un Gilles de la Tourette inversé. Je crie que des trucs très sympas. L'horreur.
Someone once told me time is a flat circle.
My log has something to tell you. Do you know it?
I don't believe we've been introduced.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 77 de Un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de l'Association Française des Critiques de Séries, l'ACS, en partenariat comme toujours avec Binge Audio. Nous sommes ensemble pour 30 minutes de décryptage d'une série et d'un phénomène sériel, dans la joie critique et la bonne humeur journalistique, bien entendu.
Next one.
That's the last one.
Pierre Langlais de Télérama à la manœuvre et avec moi cette semaine Constance Jamais du Figaro. Hello Constance.
Salut Pierre.
Anne Ligon des Fiches du Cinéma. Bonjour Anne.
Bonjour Pierre.
Et Jean-Maxime Renaud d'Allociné. Salut Jean-Maxime.
Salut Pierre.
Au menu cette semaine, un sujet à la page. L'adaptation de romans en série. Vous avez vu, je l'ai trouvé tout seul. Sujet ô combien complexe que nous traiterons en nous accrochant tel un marque-tapage à L'Amie Prodigieuse. Adaptation télé de la quadrilogie d'Elena Ferrante. Méga best-seller décliné en série à partir du jeudi 13 décembre sur Canal+. The Leftovers, Sharp Objects, Aux Animaux la Guerre, Big Little Lies, The 100. Elles sont des dizaines, des centaines même à avoir été tirées de livres, parfois sans même qu'on le sache. Pourquoi ? Mais oui, pourquoi ? On vous répond tout de suite dans un épisode et j'arrête.
Votre fille est douée dans toutes les matières. Parlez à votre mari. Essayez de le convaincre.
Il n'ira plus à l'école ! C'est clair, oui ou non ?
Après le succès mondial de la saga d'Elena Ferrante.
Je te propose quelque chose.
C'est quoi ?
On part à la mer.
Découvrez la série Événements sur Canal+.
Tu viens, oui ou non ?
De l'enfance à l'adolescence, l'amitié tumultueuse d'Elena et de Lila, dans une Italie en plein bouleversement. Votre nouvelle série Événements. L'Amie Prodigieuse, jeudi 13 décembre sur Canal+.
Voilà, comme ça on a bien la date, mais commençons chers amis par faire notre job critique et critiquons L'Amie Prodigieuse, coproduction HBO et Rai avec la participation de Canal, qui la diffuse en France, arrive chez nous. Sa première saison colle, je crois, au premier des quatre romans best-sellers de la mystérieuse Elena Ferrante, dans le Naples ouvrier des années 1950, histoire d'amitié entre deux jeunes femmes, d'abord enfants puis adolescentes, Elena et son amie prodigieuse Lila. Question à ceux qui ont lu le roman, il y en a autour de cette table, et aussi à ceux qui ne l'ont pas lu, j'en fais partie. Faut-il regarder L'Amie Prodigieuse ? Jean-Maxime, je sais que t'es à fond, vas-y.
Oui, il faut la voir. J'espère d'ailleurs que les gens qui verront la série ensuite liront les livres, que ça leur donnera envie. C'est totalement à la hauteur de ce que j'attendais, ce qui quand même est assez rare, je trouve, dans les adaptations. On est toujours un peu déçu. Là, je le suis pas du tout. J'étais en larmes un épisode sur deux. Ouais, c'est vraiment très très réussi.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que c'est très très émouvant. C'est une histoire... assez simple sur le papier. On suit deux enfants dans les premiers épisodes qui deviennent des adolescents puis des adultes dans un quartier pauvre et on suit. Enfin, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de choses comme ça. On suit.
Il y a quand même de la violence et des morts. Ouais.
Voilà. Enfin, il n'y a pas des enquêtes, il n'y a pas de choses comme ça.
C'est un monde extrêmement violent. C'est là, c'est vraiment très miséreux et très violent.
C'est très dur, mais c'est pas misérabiliste pour autant.
Constance.
Alors moi, comme Jean-Maxime, j'ai beaucoup aimé. Donc moi, ce que j'ai aimé déjà, c'est de.
En vrai, tu as lu les romans.
J'en ai lu la moitié. Ce que j'ai aimé en retrouvant la série, c'est déjà en quelques images m'arriver à me placer tous ces personnages, parce que quand on lit le roman, il faut souvent se référer à l'arbre généalogique, et je trouve que la série, très vite on a plus cette tentation, et ça permet de recadrer les éléments du roman que j'ai oublié parce que ça fait longtemps que je les ai lus. Et ce que je trouvais très dans mon roman, c'est le point de vue donc de cet enfant, et je trouve que la série arrive à préserver ce point de vue tout en nous remettant des choses qui dans le roman m'avaient pas frappé. Moi, quand j'ai vu la série, j'ai redécouvert à quel point c'était violent, parce qu'il y a des passages du livre où c'est décrit, mais ça m'a pas marqué autant quand c'est sur une page que quand c'est sur des images. Et je trouve que c'est à la fois la série qui préserve le regard de cet enfant qui est narratrice. On sait pas très bien si ce qu'elle raconte c'est vrai ou pas, mais ça c'est autre chose.
Il y a une scène d'ouverture, on comprend qu'elle est, enfin elle raconte depuis l'âge adulte, c'est
oui,
ça.
Oui, mais est-ce qu'elle dit la vérité ou est-ce qu'elle réinvente des choses qu'elle a vues, ça on n'en sait rien. Je trouve que la série fait cohabiter un regard d'enfant avec une caméra un peu adulte. On voit ce que font les adultes par rapport à ce que font les enfants à côté. Et c'est pour moi, ça, c'est le grand plus de l'adaptation.
Anne. Je suis plus mitigée.
Lu les livres ou pas?
Alors oui, si tu m'avais demandé s'il fallait lire L'ami prodigieux, je t'aurais dit oui, parce que quand même c'est un roman dense à la fois qui touche à une histoire intime et à l'histoire de la politique, de la sociologie, du féminisme, qui est très riche et qui effectivement peut faire une très bonne adaptation. Là où je suis mitigée, mais on en reparlera, c'est que pour moi l'adaptation, c'est pas collé exactement au roman. Et là, on est vraiment, effectivement, on retrouve exactement le roman.
Alors, on va évidemment développer cette discussion, puisque c'est le but de ce podcast. Moi, comme j'ai pas lu les bouquins, pas la moindre page, je vais vous donner mon point de vue extérieur. Je pense que c'est mieux d'avoir lu les bouquins. Il y a de très belles choses dans cette histoire. À commencer par l'amitié qui est au centre, qui n'est pas une amitié gratuite, romanesque, avec des fleurs bleues. C'est très dur. C'est une amitié qui tient autant de l'affrontement que de l'amour, de la jalousie. La narratrice est clairement, ça s'appelle pas l'ami prodigieux pour rien, elle est jalouse de cette Lila qui est brillante, qui est une rebelle, qui a un caractère incroyable.
C'est des sacrés personnages,
hein. Voilà, et il y a deux portraits de femmes qui et leur relation qui est très juste. Tout ce qui est autour m'ennuie un petit peu. Je trouve la série un peu longuette. Les adultes ne m'intéressent pas. Il y a beaucoup de stéréotypes, la famille mafieuse, les copines un peu secondaires. Non, bah attends, tu secoues la tête. Je te dis juste ce que je pense.
Je suis mitigée, mais peut-être pas à ce point-là.
Non, mais attends, je dis pas que la série est mauvaise. Loin de là. Chez nous à Télérama, comme on dit, je lui ai mis 2 T. Donc tu vois, c'est quand même une très bonne note. Mais ce que je veux dire, c'est que je m'incline devant l'ambition, mais en tant que téléspectateur, je ne l'aurais pas regardé. Ça ne m'intéresse pas, ça ne me touche pas assez, je n'ai pas pleuré du tout. Je trouve qu'il y a des belles choses. La voix off donne une idée de la qualité de l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a des très belles phrases, très poétiques.
C'est un problème pour moi, cette voix off. Parce que employer une voix off quand on fait une adaptation, il faut trouver autre chose. C'est-à-dire qu'adapter, justement, c'est pas recourir à la voix off pour lire le livre. Enfin bon, voilà.
Du coup, question clé, toi pour toi, non, mais est-ce que l'adaptation est justifiée? Est-ce que c'est un plan marketing? Il faut quand même rappeler que c'est un énorme best-seller et on ne fait pas de l'humanitaire, on fait de la production télévisée, donc il faut vendre. Est-ce qu'il y a, Jean-Maxime, une vraie justification artistique à cette adaptation?
L'adaptation était inévitable. Les gens qui la font vraiment bien. C'est des gens qui ont fait The Young Pope notamment.
Et Ferrante est avec eux.
Voilà, elle est avec eux. Ça se passe en Italie, c'est tourné en Italie. Ils parlent en italien, ils auraient pu faire ça en anglais.
Et en dialecte napolitain.
Oui,
voilà,
dialecte.
En dialecte.
On reconnaît, hein, les fans de Gomorra, des fois, ils se diront « Ah, ça, je connais ».
Tout est respecté et effectivement, c'est extrêmement fidèle. Mais moi, je trouve qu'il y avait tout dans le roman, en fait. Il y avait déjà tout. Il n'y avait pas besoin de changer des choses pour le plaisir de changer des choses.
Non, pas pour le plaisir, mais parce que pour moi, une adaptation, ça doit quand même être un point de vue. Et quelque chose comme une autre œuvre ou une œuvre qui apporte quelque chose au roman. Là, la série, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que la reconstitution historique, le casting, tout est impeccable. Hein. Mais
ben voilà, très classique.
C'est très classique. Et c'est pour moi, c'est vraiment à la lettre. Mmh. Et alors, quand Pierre dit, moi, j'ai pas lu le roman et du coup, ça m'intéresse pas trop, c'est la question que je me posais. C'est si on n'a pas lu les livres, est-ce qu'on peut s'accrocher?
Si on aime les fictions intimistes, historiques, c'est très classique. Et en même temps, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un parti pris narratif qui est quasi huis clos, en tout cas pendant une moitié de saison, qui est assez culotté, c'est-à-dire que c'est presque du théâtre. D'ailleurs, il y a eu une adaptation théâtrale de L'Ami prodigieuse. Donc là, il y a une vraie prise de risque. Mais je reviens à ma question, Constance. Justifier, pas justifier cette adaptation. Toi qui as lu le bouquin, est-ce que tu retrouves l'histoire et du coup tu es heureuse, ou est-ce que tu te dis, ah, ça m'apporte vraiment quelque chose, tu l'as sous-entendu tout à l'heure?
Moi, je trouve que je suis contente à la fois de retrouver le bouquin, parce que le bouquin est tellement touffu que ça m'a aidé, si je veux reprendre ma lecture du troisième tome, à me remettre les personnages en tête. Et moi, ce qui m'a plu dans cette adaptation, c'est que j'ai l'impression qu'on voit le point de vue de la jeune narratrice, donc d'Elena, mais en tout cas pour cette première saison qui se passe quand elle est enfant, la série ouvre sur le monde qui est autour d'elle d'une manière qui n'était pas pour moi apparent sur la page quand j'ai lu le roman.
Donc ça t'a apporté quelque chose. J'ai dit Elena Ferrante fait partie de alors si mystérieuse soit-elle, hein, on ne sait pas qui est cette personne. On a quelques idées puisque le roman est semi-autobiographique. Est-ce que c'est important? Ça, c'est quand même une question clé. On l'a posé quand on a parlé du travail de Stephen King. Est-ce que, oui ou non, l'auteur doit être impliqué à ce point Moi, je me rangerais plutôt du côté d'Anne. Je trouve que c'est pas mal qu'il soit là au début, mais ensuite qu'il se recule.
Un consultant, quoi.
Un consultant, voilà.
Je crois qu'elle est plus consultante que vraiment scénariste. Elle est créditée au même titre que les scénaristes, mais je crois qu'elle les a même pas vraiment rencontrés en vrai.
Ils ont tous échangé par mail sur des points de trucs où ils avaient besoin d'éclaircissement. Elle leur a répondu. Mais enfin, après, moi, je suis un peu d'accord avec Anne sur le fond, et enfin, on va en parler ensuite. Je trouve que c'était le défaut de la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Quand on est trop respectueux, c'est comme relire le livre avec le suspense en moins. Et je trouve que Harry Kéber, un de ses problèmes, c'est outre la voix off qui est insupportable, c'est que ça gardait tous les défauts de construction du roman.
Oui, c'est marrant parce que c'est presque Anne dit de l'ami prodigieux finalement.
Non, parce qu'on parle.
Non, mais que c'est trop fidèle, que c'est trop proche.
Oui, mais on part d'un bon roman, alors que l'affaire Harry Kéber.
Qui n'est pas qui est un page turner en soi.
Moi, je trouve que c'est une adaptation. Ce qui me fait plaisir quand j'ai lu le bouquin et que je vois un film ou une série, c'est de voir ce qui est conservé et le regard que l'auteur apporte sur cette œuvre et pourquoi il choisit de l'adapter maintenant. Enfin, c'est hors sujet parce que c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit, j'en suis désolée. En février, il y a Marie, reine d'Écosse qui sort au cinéma. C'est un film qui reprend l'affrontement de Marie Stuart et Elisabeth Ier. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est relu à l'ère du mouvement MeToo. Et pour moi, sur le coup, c'est pas forcément fidèle à l'histoire, mais ça fait voir les choses d'une manière palpitante sur ces femmes
de pouvoir. Alors là, ça parle d'histoire avec un grand H, alors qu'un roman, c'est l'histoire avec un petit H.
Oui, je suis d'accord, mais le principe est le même quand tu fais quand tu fais l'adaptation ou pas. Ce qui est intéressant, c'est le regard que l'auteur met dessus. Pourquoi il a choisi ce bouquin? Et c'est ça qui est intéressant. Et moi, j'aime bien. Et c'était le cas de La Servante Écarlate ou même Nos Animaux la Guerre, c'est que parfois la série prolonge l'œuvre ou la revoit. Et ça, c'est ça qui m'intéresse.
On va parler un petit peu de ça, parce que c'est, allez hop, c'est moi le premier qui en parle. C'est exactement ce qu'a fait The Leftovers et qui était une complète réussite. Les saisons après la saison fidèle au bouquin étaient meilleures que la saison fidèle au bouquin elle-même. On va reparler de tout ça, Jean-Maxime, rapidement.
Juste sur The Leftovers, la première saison n'était pas vraiment fidèle au bouquin non plus. En fait, ils ont vraiment pris quelques éléments.
Oui, mais c'était la même structure.
Oui,
ça, voilà.
Oui, oui. Là, je trouve. Enfin, il y a 4 livres, ça se prête tellement à une série. À la base, c'est une série qu'on lit finalement, que je vois pas pourquoi l'adaptation aurait dû être totalement différente, avec un autre point de vue.
Je pose des questions, j'ai pas la réponse. Oui. C'est-à-dire que je pars du principe que. Moi là, j'ai trouvé que ça manquait d'un point de vue, je sais pas comment dire, de quelque chose qui aurait augmenté ce qui existait déjà. Je trouve que ça fait défaut, ça, d'avoir un regard artistique, je sais pas comment dire.
Avez-vous tué Nola Kellerghan?
Cet homme est un animal, il ne distingue pas le bien du mal.
Je ne l'ai pas tué. Combien de fois je dois vous dire que je ne l'ai pas tué? Quelqu'un n'a pas envie que je fourre mon nez dans cette affaire.
On ne sait jamais de quoi les gens sont capables.
Toute autre ambiance, cette bande-annonce de la vérité sur l'affaire Harry Kéber. On va en reparler, mes chers amis. On va commencer par tout reprendre à zéro. Donc, ce podcast fera 1h30. On vous prévient tout de suite. Non, je déconne. Il va faire 30 minutes comme d'habitude. Le nombre d'adaptations de romans, je l'ai dit en introduction, en série explose. Tâchons de comprendre pourquoi et commençons par être un petit peu optimistes. Il y a sans doute une raison noble. Le lien entre les deux formes d'art, par exemple, on sait que le feuilleton, c'était le feuilleton des journaux et la littérature avant. Côté plus littéraire des séries, peut-être, qui ont atteint une maturité particulière en ces temps avancés de son histoire.
Moi, ça, c'est mon grand dada, c'est-à-dire qu'au lieu de continuer à comparer les séries au cinéma, parce que c'est de l'image, elles ont plus à voir avec la littérature et avec le feuilleton, le roman feuilleton, avec le roman, avec un métier qui est d'écrire, même si être scénariste et être écrivain, c'est pas le même métier.
Et même si on oublie encore très souvent dans nos amis médias et dans les publicités que le scénariste fait partie de la création d'une série
absolument.
Télé.
Absolument, et il est quand même un personnage important.
Voilà. Donc pour toi, la raison noble, tu y crois que s'il y a autant d'adaptations, c'est parce que ce lien historique...
Oh ça me paraît assez logique, oui.
Tu crois pas que c'est plutôt parce que c'est la pique TV et qu'on est en manque d'idées et qu'on va piquer des bouquins, Constance?
Alors moi, je pense que dès qu'un roman a du succès, on se dit, si on fait un film ou une série, peut-être que les gens, par curiosité, vont venir le voir. Je pense que aussi, c'est bon pour les gens qui n'ont pas lu les bouquins et qui... le découvre par un autre médium. Et je pense que dans une ère où t'as beaucoup de commandes de projets, quand t'as un bouquin où le scénario est déjà plus ou moins écrit, tu gagnes un temps fou. C'est plus simple de monter des projets sur des bouquins qui marchent bien, ça rassure l'investisseur.
Oui, c'est un peu cynique, mais ça ne débouche pas forcément sur une œuvre méprisable. Ça peut faire de bonnes choses.
Mais c'est surtout, moi je crois plus vrai aux États-Unis, où déjà il y a flopé de romans qui sont écrits comme des séries, c'est-à-dire qui sont vraiment ce que tu disais des page-turner. Les adaptations en France, on a fait beaucoup d'adaptations littéraires qui sont pas forcément réussies, mais qui justement s'appuyaient sur.
Il y en a de plus en plus à la télé française aussi. On parlait de Animaux la guerre, adaptation d'un bouquin, ça commence quand même à se démocratiser chez nous.
Je pense qu'en France, on a cette culture littéraire, d'histoire littéraire et qui colle. Ça a fait les grandes heures de la télévision et de l'ORTF, hein, les adaptations de textes de la littérature et du patrimoine français. On n'est pas comme aux États-Unis. Ou quand sort un roman qui est déjà presque écrit et construit comme une série, où là les droits sont achetés tout de suite.
Voir la publication même.
Oui, ça on va en parler justement, mais il y a quand même une démarche marketing. On est d'accord que l'amie prodigieuse, malgré toutes ses qualités, c'est pas quelqu'un qui s'est dit oh là là, ça ferait quand même une super série. C'est un carton, donc on va en faire une série. Quoique je me demande si c'est en même temps si le projet est parti d'Italie, clairement, mais les Ricains. C'est un gros carton de librairie aux États-Unis, l'amie prodigieuse.
Je suis pas sûr. Et d'ailleurs, sur HBO, les audiences sont pas extraordinaires pour l'instant.
Ouais. Les critiques, en revanche, sont très élogieuses.
Ouais.
Mais enfin, les Américains ont tendance à s'enflammer quand c'est un truc européen. C'est tellement exotique. Ouais. Mais bon, ceci étant dit, je dis pas que c'est une mauvaise série. Attention.
Non, non. Mais Harry Kéber, c'est pareil. Ça n'a pas été forcément un énorme succès aux États-Unis. D'ailleurs, c'est plutôt une série canadienne et pas américaine.
Oui, c'est assez symptomatique parce que c'est un page-turner suisse écrit en français. Adapté au Canada par un réalisateur français, Jean-Jacques Hano, avec un casting américain.
Une vision de l'Amérique très extérieure à l'Amérique, en fait. Une fantasmée de l'Amérique qu'on peut avoir
qui
à l'étranger.
Qui peut être assumée dans le bouquin lui-même.
Oui, c'est le cas.
Mais est-ce que c'est pas du coup une série, on va peut-être la critiquer, on va dire ce qu'on en pense pour ceux qui l'ont vu. Est-ce que c'est pas symptomatique d'un projet qui n'existe que parce que le bouquin s'est bien vendu?
En fait, Joël Dicker, l'auteur, il a eu le choix. On lui a proposé 1000 projets, notamment Spielberg qui voulait en faire un film. Et il a refusé plein de choses. Il avait vraiment envie de rencontrer les gens qui lui proposeront le projet qui ressemble à ce qu'il avait imaginé.
Donc il aurait pas été d'accord avec Anne.
Oui, non. Et du coup, c'est la proposition de Jean-Jacques Hano, presque étonnamment, qui les a plus intéressés que la proposition de Spielberg. Mais c'est vrai que Jean-Jacques Hano, visiblement, il aimait vraiment le roman et il leur a tout de suite dit voilà ce que je vais faire, etc. Alors que souvent, les Américains achètent des projets, des adaptations et n'en font parfois rien. Ils les achètent juste pour que les concurrents ne les aient pas.
Exactement.
Et les films ne se montrent jamais. Donc là, au moins, il y a eu un truc un peu qui s'est fait en bande et par des gens passionnés.
Parce que ça rappelle quand même la stratégie d'Arlan Coben. Qui bombarde de plus en plus de séries, etc., adaptées ou pas de ces bouquins. Là, j'ai du mal à voir l'intérêt. Alors, en même temps, j'allais dire l'intérêt littéraire des bouquins d'Arlan Coben, ça se défend parce qu'il y a des gens qui passent du bon temps en les lisant, et c'est peut-être pas pire que Guillaume Musso quand même. Faudrait pas exagérer.
Non, on va dire que c'est pas pire.
Voilà.
Safe, c'était pas trop mal.
Non, Safe, c'était nul. Mais ça, c'est une autre discussion. Non, Safe, c'était nul. Mais enfin, c'était pas ce qu'il a fait de pire.
Ouais,
il a fait pire. Les trucs qui sont passés sur TF1 étaient moins bons. Ça, quand même. Pardon, c'est de l'adaptation de roman, mais c'est l'équivalent. Enfin, c'est de la production en gros. Il n'y a pas de démarche littéraire là-dedans.
Ah bah de la part d'Arlan Coben, non. Il a signé pour Netflix, je crois, 17 projets, dont certains ne sont pas du tout adaptés.
Diffusés qu'à la caisse du Monoprix.
C'est quand même très inquiétant, mais ça marche tellement. Enfin oui, ces romans marchent tellement. Et peut-être c'est pour attirer un public plus féminin, parce qu'on ne l'a pas forcément dit, mais les livres sont avant tout lus par des femmes quand même. Qui a un public...
Les livres d'Arlan Coben, je tiens à dire. Je suis un homme et je lis des livres.
Non, mais les livres en général et les livres d'Arlan
Coben
en particulier.
Les femmes lisent plus que les hommes. Là, tu m'apprends un truc.
Et du coup, c'est un public aussi qui peut-être est plus facile à toucher, la fameuse ménagère avec ce genre de projet-là.
Maintenant, j'arrive plus à me souvenir.
La femme responsable des achats de moins de 50 ans.
C'est ça. Waouh, c'est formidable. Alors, Constance, tu sous-entendais un truc tout à l'heure, c'est la chronologie, hein, comme on dit, de certaines séries qui sortent en même temps que les bouquins. Moi, je voulais donner le nom d'une boîte qui s'appelle Alloy Entertainment. Elle est pas très connue du grand public, elle appartient à Warner. Et c'est elle qui adapte des romans pour ados. Alors, Gossip Girl, c'est Alloy. Vampire Diary, The 100. Et à chaque fois, c'est une stratégie globale. C'est-à-dire que le bouquin sort quasi simultanément avec la série. Tout est conçu en amont pour que finalement, les jeunes gens qui aiment les bouquins regardent la série. Et pourtant, c'est parfois deux histoires différentes.
Moi, généralement, ça diverge assez vite. Hein,
ouais.
Puisque le rythme en librairie ne suit pas le rythme de production. Mais on en reparlera. C'est un peu comme Game of Thrones. T'as deux canons maintenant.
Mais alors ça, c'est quand même assez intéressant et impressionnant. Et j'hésite entre me dire c'est réjouissant parce que ça veut dire finalement qu'on s'appuie sur l'amour de la littérature de notre jeunesse qui dévore des bouquins, alors qui sont pas forcément des grands classiques, mais qui dévore des bouquins quand même. Et en même temps, c'est un peu cynique parce qu'on leur sort direct la série télé derrière.
Là, ce dont tu parles, oui, ça me paraît quand même du packaging bien orchestré.
C'est quand même
de la
créativité à moindre risque. C'est un truc qui marche pas trop mal. Bon, on sait que ça va épater le chaland, quoi.
C'est bon, on vient de cracher sur The Undred et Vampire Diaries, c'est fini les gars, on est mort.
Il y a quand même un peu de création, je vais le défendre, je les lis pas, mais il y a quand même de la création parce qu'ils partent en général d'un roman et puis ensuite ils font 6 saisons.
Ils prennent leur liberté.
Voilà, oui. Donc c'est un point de départ, c'est presque un pilote. Et puis ensuite, voilà, ils font autre chose.
Enemies to the east. Enemies to the west. Enemies to the south. Enemies to the north. Whatever stands in our way, we will defeat it. We're the last Lannisters. The last ones you count.
On ne pouvait pas avoir ce débat sur les adaptations sans parler de ce petit livre qui s'est vendu à quelques exemplaires sous le manteau et de cette série que certaines personnes auraient regardée. Ça s'appelle, comme disent les gens, Game of Thrones, je crois, c'est ça ? Game of Thrones, la plus populaire d'entre toutes les adaptations et de presque d'entre toutes les séries de tout court d'ailleurs, qui pose une question un peu différente, tu l'as sous-entendu Constance, un peu différente de la fidélité, même si ça questionne la fidélité à l'œuvre originale, le dépassement des œuvres. C'est vrai pour The Leftovers, donc, qui a vécu 2 saisons de plus que le roman, si j'ose dire. Mais c'est encore plus particulier parce que Game of Thrones, les bouquins sont pas finis et la série a fini par rattraper les livres. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation?
Ceci dit, ils sont quand même rencardés sur la fin par George R.R. Martin. Martin leur a dit comment finissait le bouquin. Donc on peut imaginer que, même s'ils ont beaucoup rebrodé depuis 2 saisons,
ça va se rejoindre?
Pas forcément, mais je pense qu'il y a des choses qui vont se rejoindre et des choses dont on sait qu'elles divergent depuis la saison 2. Donc de toute manière, voilà.
Donc il n'y a pas de mal.
Ils sont presque obligés en fait de faire ça puisque c'est des romans qui ont été énormément lus. Pour surprendre le spectateur, c'est quand même la base de ce genre de
oui,
programme. Il faut forcément se détourner.
Ça aussi, pour avoir justement par curiosité lu le premier tome, alors c'est très fidèle hein, l'adaptation au début.
Au début, et puis après ça diverge complètement. Il y a des personnages qui sont morts, qui en fait ne sont pas morts dans les romans, etc. Ils sont obligés, sinon les gens ne regardent plus.
Quel intérêt d'un point de vue créatif de jouer à ce jeu-là, parce que c'est super l'adaptation proche, comme on l'a dit, hein, comme l'ami prodigieuse, mais c'est quand même pris a priori pour un scénariste beaucoup plus excitant d'imaginer sa propre histoire plutôt que d'essayer de suivre un récit par ailleurs déjà existant.
Mais dans le cas de Game of Thrones, je pense qu'ils ont été contraints. Je pense que quand ils ont créé la série, ils n'imaginaient pas qu'ils allaient dépasser George R. R. Martin dès la saison 5.
Oui, mais alors là, ils sont contraints. Je pose la question et je la repose. Pour le scénariste, pour moi, ce qui fait la force de The Leftovers, qui est quand même la plus grande série de tous les temps, comme tout le monde le sait, enfin, il y a The Wire aussi, mais bref, c'est que Lindelof s'est appuyé sur Damon Lindelof, sur une œuvre existante qui le touchait intimement et ensuite, il a volé de ses propres ailes pour raconter encore plus quelque chose qui lui était propre. Et c'est quand il a pu prendre ses libertés par rapport au roman de manière plus complète que l'œuvre est devenue si excellente. C'est parce qu'il a pu la prendre vraiment à son compte.
Tu n'as pas cité The Handmaid's Tale, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que le roman...
Sauf que ça a été un peu l'inverse. Hein. La saison 2 est moins bonne. Enfin,
je sais pas, moi je serais moins catégorique que toi.
Ah ouais.
En tout cas, là, pour préciser les choses, donc le roman se termine.
C'est vrai qu'on n'avait pas cité Mad Stell.
C'est la première saison. Le roman, il fait la première saison, voilà. Et maintenant,
on peut inventer d'autres choses.
On vole de ses propres ailes. Hein. C'est pas inintéressant aussi.
Et pour Game of Thrones, ce sera le cas avec tous les spin-offs qui sont en train de nous préparer. Là aussi, ils mettent des auteurs sur un univers Game of Thrones et ils créent quelque chose à partir de là qui, j'espère, leur ressemblera.
Sachant que c'est un univers extrêmement codifié, enfin, c'est-à-dire que Game of Thrones, il y a quand même une très très grosse base documentaire, si j'ose dire, avec toutes les familles, les codes, les choses. C'est-à-dire que c'est vraiment une bible, comme on dit, qui pèse quelques milliers de pages. Hein. Donc ça fait quand même une grosse base pour travailler. Alors il y a autre chose dont on n'a pas parlé, hein, c'est les classiques. On a sous-entendu que les Français, on s'y prenait pas toujours de manière très fine pour les adapter. En revanche, nos voisins britanniques, que connaît si bien Constance, il faut en parler, ils s'attaquent très souvent aux classiques de leur littérature. Et des autres, d'ailleurs.
À intervalles réguliers, d'ailleurs. Ah, c'est-à-dire qu'on peut avoir 3 ou 4 adaptations d'Orgueil et Préjugés. Mais il faut quand même dire, enfin, moi, ce qu'on m'avait raconté, c'est que si la BBC et ITV y mettaient autant de cœur, c'est que pour la BBC, c'est sa mission de service public et que les Anglais ne sont pas réputés beaucoup lire, donc il faut leur montrer leurs classiques à la télévision pour qu'ils aient envie de les lire.
Alors, soit ils sont fidèles, mais délicatement modernes, hein, par exemple quand ils font le Guerre et Paix d'Andrew Davis, adaptation de, c'est pas un roman anglais, hein, mais bon, c'est une adaptation britannique. Alors, moi, soit ils sont fidèles, je finis, mais extrêmement libres et créatifs. Et alors là, évidemment, les modèles, le modèle, c'est Stephen Moffat, Jekyll, donc Jekyll pour la faire à la française, et Sherlock. Constance.
Alors, pour la partie, ils sont fidèles. Enfin, pour reprendre Andrew Davis, qui est un peu l'industriel de l'adaptation, puisqu'il a quand même revu toute Jane Austen en 15 ans, ce qui était intéressant pour moi, enfin, c'est toujours mon point de référence, mais Orgueil et Préjugés de 94 avec Colin Firth. Au premier abord, c'est très fidèle, et en fait, à l'époque où ça a été diffusé, les gens sont tombés en pamoison, c'était trop sexy, il y avait trop de Monsieur Darcy, mais qu'avait-il fait avec Jane Austen? Et pour moi, c'est la réussite de Davis, c'est de prendre un classique et de voir, enfin, on revient à ce que disait Anne, faire voir autre chose ou faire voir un autre point de vue. Et peut-être inscrire cette œuvre dans le moment où on est. Et la version moderne de Sherlock, c'est les manies de Sherlock dans le Londres moderne, dans les manières de communiquer actuelles. Et c'est ça qui est fantastique.
Oui, et c'est extrêmement fidèle. Enfin, c'est toujours la même phrase, elle est très éculée, mais c'est être fidèle non,
à l'esprit
et non pas à la lettre.
Et oui, et puis vraiment Sherlock, je trouve que c'est un très très bon exemple. Et c'est un modèle parce que c'est rester fidèle, c'est toujours Sherlock, mais c'est modernisé et puis c'est avoir même cette même servi de l'image de pour montrer ses qualités
d'investigateur.
Déduire, je ne trouve pas le mot.
De déduction.
Voilà, ses qualités de déduction. Enfin, il y a tout un jeu là-dessus, etc. Enfin, ça, je trouve que c'est une chouette adaptation qui est quand même autre chose que d'adapter Maigret, par exemple, en France. Hein. Mais oui, c'est une adaptation aussi.
Prendre le risque de cette modernisation qui n'est en aucun cas une infidélité. Et ça, c'est une trahison. C'est exactement ça. Allez, on finit avec autre chose quand même. Parce que, on finit cette émission en faisant des petits tours des choses dont on n'a pas le temps de parler. On n'a pas parlé d'une autre adaptation qui a été quand même une des séries dominantes de cette dernière décennie, c'est The Walking Dead, et des BD, et des comics, les super-héros, vous savez, ce truc-là qui fait quelques milliards de téléspectateurs et de spectateurs au cinéma tous les ans, c'est de l'adaptation littéraire, donc ça aussi, ça compte. Qu'est-ce qu'on en fait de ces adaptations-là? Est-ce que c'est moins complexe parce qu'on a déjà du visuel et ça impose déjà un univers, ou est-ce que c'est au moins aussi galère parce que, on parlait des libertés que peut prendre Game of Thrones en tuant certains personnages et tout, mais alors The Walking Dead, c'est leur jeu préféré, c'est de zigouiller un type qui est pas mort dans la BD. D'ailleurs, ils n'ont plus que ça à faire, les pauvres. Mais qu'est-ce qu'on fait de la bande dessinée et des comics?
C'est autre chose. C'est-à-dire que là, moi, je ne suis plus tout à fait dans l'adaptation littéraire. C'est-à-dire qu'on adapte...
Tu sous-entends que la BD, que c'est pas de la littérature, attention.
Oui, si, je sous-entends tout à fait ça, parce que c'est un autre art encore. C'est-à-dire que là, il y a à la fois, on est plus proche du storyboard, hein, on est dans à la fois l'image et le texte. Je dis pas que la BD, c'est pas bien ou que c'est moins bien que la littérature, voilà. Mais c'est encore un autre travail. Et c'est pas forcément plus facile à adapter.
Mais ça serait justement un piège pour moi de prendre l'œuvre originale comme une sorte de storyboard. C'est là que tu fais de l'adaptation case pour case, t'es mal barré.
Oui, ça dure 10 minutes parce que finalement, c'est ça. Ça pose des situations, mais il y a peu de dialogue, il faut vraiment étoffer.
C'est comics, c'est-à-dire qu'il y aurait des bandes dessinées adaptées où là, il y a quand même, il y a du.
Oui, t'as des romans graphiques comme on dit aujourd'hui où il y a du texte, il y a du dialogue, ça, il y a moyen de faire.
Après, comme tu dis, c'est peut-être que les comics, c'est une bible, tout simplement.
Et qu'on part de ça et qu'on creuse.
Qu'on creuse, j'imagine, avec les limites de droit qu'on a, j'imagine qu'on peut pas faire n'importe quoi de Batman, de Superman, de Daredevil. Je pense qu'il y a quand même un contrôle de la maison d'édition Marvel ou des gens qui l'écrivent.
Je suis pas fan de la série et je l'ai pas suivi, mais Gotham est quand même un exemple intéressant de ce qu'on peut faire en créant un univers à partir d'un univers existant et en allant chercher la série. Pour le coup, réussi ou pas réussi, Gotham, c'est une proposition que la série fait en plus de ce que la BD peut proposer, sauf erreur de ma part.
Ouais, c'est vrai. Après, souvent, ça atteint très vite ses limites. Je pense à Preacher, notamment, qui était plutôt sympa, qui est adapté aussi de romans graphiques, qui était plutôt sympa au début. Et puis finalement, ce que racontaient les romans graphiques suffisait. Et en faire une série sur plusieurs saisons, on tourne très très vite en rond. Walking Dead, ça existe toujours, mais ça tourne en rond depuis 5 ans.
Ça fait longtemps que ça tourne en rond.
On a bien été là, mais bon.
Et d'ailleurs, on terminera sur ce petit mot gentil pour The Walking Dead, cet épisode 77 d'un épisode Et j'arrête, le podcast 100% série de la CSA avec Binge Audio. Merci à Constance Jamais du Figaro, à Nelly Gond des Filles du Cinéma et Jean-Maxime Renaud d'Allociné. Merci aussi à Jules qui était, comme toujours, à la technique. La semaine prochaine, ce sera le retour de la battle des séries avec trois affrontements sans pitié. J'espère que vous serez là et d'ici là, likez-nous sur Facebook et Twitter. On vous aime, aimez-nous en retour. Salut à toutes, salut à tous, à la semaine prochaine.
Next one.
Whoa, wait.
That's the last one.